Vous êtes en train de faire une présentation d'un projet qui vous tient à cœur. Et là, le stress arrive. Comment le gérer? C'est ce qu'on apprend à faire dans notre club Toastmaster Forum des Rives de Seine. Je m'appelle Tatiana Klimova et aujourd'hui, je parle avec Anne Visdeloup, ingénieure en cybersécurité et passionnée de reconstitution historique. Elle partage avec nous son expérience de prise de parole en public et nous donne 3 conseils pour s'améliorer dans ce domaine. Bonjour Anne, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de tes passions, de ton travail?
Bonjour Tatiana, alors je suis ingénieure en cybersécurité industrielle. Ça veut dire que pour des systèmes comme la ventilation, les grues, l'eau potable, je vérifie que c'est conforme d'un point de vue cybersécurité, pour éviter qu'on se retrouve sans eau potable par exemple. Et tout ça sur des plateformes pétrolières et gazières, donc un domaine précis. Et en dehors de mon travail, je fais de la reconstitution historique.
Qu'est-ce que c'est ?
La reconstitution historique, ça consiste à expliquer, expérimenter dans un espace-temps, lieu, classe sociale donnée, ce que les gens pouvaient vivre donc dans cet espace-temps, classe sociale, lieu donné. Moi, ce que j'aime faire, c'est du populaire en 18e siècle en France ou de l'aristocratique 19e siècle en France.
D'accord, et tu fais ça en groupe, avec d'autres personnes?
Oui, je fais partie de plusieurs associations, parce que j'aime bien expérimenter. Un groupe de danse en 19e siècle, et en 18e siècle, c'est un groupe de civils. Avec eux, je fais de la cuisine, de la couture, des jeux, plein d'activités très sympathiques et populaires.
De la cuisine même, de cuisine du 19e siècle?
Alors, cuisine 18e.
18e, encore plus d'accord.
Alors, la difficulté... ça va être de refaire une recette. En premier, j'utilise ce que je trouve sur Gallica. Et souvent, en journée reconstitution, je vais apporter ça, partager ça avec le public et avec la troupe. Et on va avoir des retours, et souvent sur les ingrédients qui sont différents d'aujourd'hui.
Et de quelle recette es-tu particulièrement fière?
Alors, j'ai fait des macarons, mais pas des macarons parisiens. Ça ressemblerait plutôt à des macarons lorrains. C'est très bon. Odeur fleur d'oranger. C'est... commun en fait à cette époque. Et sinon, je dirais la plus fière, des pâtés en croûte.
Très bien. Et tu fais aussi beaucoup de sport?
Ce que j'aime faire, c'est surtout d'aller courir. Et cet été, j'ai passé un été à faire du surf.
Est-ce que tu as un credo dans la vie?
J'ai une phrase que j'aime beaucoup, de Paul Éluard. C'est « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et je l'aime bien parce que je trouve que ça prend la vie du bon côté.
Est-ce que tu peux expliquer comment tu vois la signification de cette citation?
Je dirais que quand quelque chose d'accidentel arrive, pas forcément accidentel dans le sens malheureux, il faut le prendre comme une nouvelle chose à apprendre. Ça arrive là parce qu'on l'a forcément provoqué quelque part, ou on arrive à un endroit donné et c'est possible que ce genre de choses arrive.
Et est-ce que tu es beaucoup amenée à parler en public? Et dans quel contexte?
Alors, on a évoqué deux facettes, mon travail et mon loisir, la reconstitution. Quand j'ai des journées en public, je vais parler parfois un avec un, et parfois à un grand groupe. Donc j'ai besoin de faire des explications concises pour que l'activité se répète tout au long de la journée. Parce qu'évidemment, je n'ai pas qu'une seule personne en face de moi dans la journée, ou je n'ai pas juste un petit groupe de 10 personnes en face de moi dans la journée. On va dire que le plus souvent, j'ai une explication de 15-20 minutes que je vais répéter peut-être 20-30 fois dans ma journée, parce que c'est ce qui va se passer, les gens vont passer, vont poser souvent les mêmes questions. Et ensuite, dans le cadre de mon travail en cybersécurité, j'effectue parfois des journées de formation. Donc je prépare mes diapositives et je prépare des formations qui s'adressent principalement aux gens qui sont sur des chantiers. Donc il faut que ce soit rapide, actif, organisé pour qu'ils puissent le retenir, parce que ce sont des gens qui vont ensuite appliquer des règles que je leur demande d'appliquer. Et si mon propos n'est pas organisé, rien ne va être retenu et ce sera le bazar dans les systèmes informatiques ensuite.
D'accord, mais je dirais que un propos bien structuré, animé, c'est important pour tout le monde, oui. Pas juste pour les gens qui sont dans le chantier, c'est, notre tête à tous marche de la même façon, non?
Alors, c'est important pour tout le monde, mais par exemple, j'ai travaillé avec un chef qui a une très forte créativité, et avoir quelque chose de structuré pour lui, c'est bridant. Donc, ça arrivait de passer des après-midi entières où on notait énormément de choses, et habituellement, on prenait une salle pour deux qui était normalement pour 20 personnes. Parce que on avait besoin de partager, et au final, c'est moi, du coup, qui organisais les restitutions, parce que pour lui, dans l'ordre dans lequel on l'avait dit, ça se tenait. C'est une vision, on va dire, en arborescence, et c'est pas forcément une vision qu'on peut restituer.
Je vois. D'accord. Donc, au travail, tu dois résumer et appuyer des points forts, mais pas trop d'informations.
Pas trop d'informations, exactement.
Et en parlant des reconstitutions historiques, quand tu prends des rôles, est-ce que tu as l'impression que ça change ta personnalité, ta façon de parler, ça libère certaines choses, tu oses plus?
Alors, je pense plutôt que ça m'a permis de répéter plusieurs fois la même chose. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Répéter trois fois la même chose, c'est pas très pratique. Et en fait, avec Toastmaster, on va dire, pour s'entraîner aux exercices, on est un peu obligé de se chronométrer et de répéter quand on est débutant. Et finalement, cette tâche un peu rébarbative ne l'est plus vraiment pour moi. Je peux répéter 30 fois la même chose dans ma journée et tant pis si pour la 15e fois j'ai une question sur « Mais enfin, pourquoi vous n'avez pas mis de tomates sur la table ce midi ?»« Madame, les tomates n'existent pas encore !»
Waouh, je ne savais pas. Au 18e siècle.
Ouais, fin 18e siècle, d'accord. En Normandie, les tomates ne sont pas encore arrivées. Elles sont déjà en Provence, mais elles gagnent encore du terrain vers le Val de la France.
Ça, c'est super, c'est très intéressant. On passe au Toastmaster, le club dont nous faisons partie, que tu as évoqué. À quel moment as-tu décidé d'améliorer tes compétences de prise de parole? Comment tu as décidé de rejoindre le club?
Je suis arrivée dans le club en octobre 2019. J'étais rentrée d'expatriation en août 2019. J'avais eu quelques discussions avec des gens là où j'étais. Et en plus, je savais que le club de Boulogne existait avant. Et je me suis dit, bon, allez, j'ai du temps. Pourquoi ne pas aller visiter? Je suis venue, ça m'a plu, je suis restée.
Mais pourquoi tu as décidé d'améliorer tes compétences de prise de parole? Pour ces raisons dont on a parlé?
Professionnellement, principalement.
Professionnellement, d'accord.
Parce que je savais que j'allais faire des formations, je savais aussi que j'allais devoir participer à des partages de connaissances. Le problème, c'est que j'ai un trac sur les gens que je connais déjà, en petit comité, alors que des séances où je parle devant 100 personnes dans l'amphithéâtre, ça ne pose aucun problème.
C'est vrai, mais c'est bizarre. Ça doit être le contraire.
Non, parce que...
Pourquoi?
Dans une petite salle, les gens te fixent tous un par un, d'accord? Et tu les connais. Un par un, ils vont pouvoir te faire des réflexions ensuite. Tandis qu'en amphithéâtre, oui, tout le monde te fixe. La moitié se demande pourquoi est-ce qu'ils sont venus. Et donc, je fais mon discours, je fais ma présentation. Peut-être que je vais avoir trois questions, les gens n'osent pas. Et c'est terminé.
Oh, c'est très intéressant. Parce que tu as l'expérience de parler devant un amphithéâtre.
Oui, ça a commencé en école d'ingénieur. Je m'occupais de la journée de partage entre les professionnels et les étudiants.
D'accord.
Et d'une journée de conférence. Donc, je devais introduire tous les conférenciers un par un quand ils arrivaient sur scène.
Oui, en même temps, je te comprends parce qu'un amphithéâtre, il y a un petit bruit de fond. Alors que quand tu présentes quelque chose devant un petit groupe, il y a le silence total et ça peut faire peur peut-être.
Le bruit des crayons. Les gens qui appuient le doigt sur la bouche, ils savent qu'ils ont une question, ils vont te la poser, ils la notent, et tu le vois.
Parce que tu n'étais pas très contente de tes performances, tu pensais qu'on peut améliorer?
Je pensais qu'on pouvait améliorer. Comme j'ai vu le thème de ce genre de club, donc Toastmasters, je me suis dit, peut-être, regardons ce qu'ils font.
Et est-ce que tu as utilisé d'autres choses, d'autres méthodes pour t'améliorer en prise de parole, des petits secrets en dehors de Toastmasters?
Pas vraiment, à part répéter avant, pas vraiment.
Répéter avant, mais pour gérer le stress?
Aucun.
Aucun? Enfin, t'as pas de stress?
Non. Le stress arrive au moment où je suis devant les gens. J'ai pas forcément de stress avant. Je peux préparer les spectacles, préparer des tas de choses, je ne sens pas ce stress.
D'accord, donc c'est surtout Toastmaster que tu as utilisé. Et en plus des discours qu'on fait d'improvisation, tu occupes un rôle important au sein du club. Tu es responsable de la formation des nouveaux membres, mais aussi de l'organisation des réunions, de l'emploi du temps. Pourquoi as-tu décidé de prendre ces rôles et qu'est-ce que ça t'apporte?
Je suis VPF, donc vice-président formation pour la deuxième année. La première année, j'ai pris ce rôle parce que je me suis dit que je voulais rendre l'appareil à ceux qui m'avaient permis en fait de me former la première année. J'avais vu qu'en fait VPF permettait vraiment de faire tourner la boutique, hein, organiser le roulement des rôles des gens, être sûr que tout le monde trouve l'information là où il le faut. Je trouvais ça très intéressant et ça me permettait aussi d'explorer dans le système de Toastmaster, dans le système Passways, ce qui se passait. Parce qu'au final, si on n'y est pas confronté, on va pas forcément aller creuser ce qui se passe. Et la deuxième année, ben en fait, je n'ai pas réussi à trouver de remplaçant.
Bon, c'est la preuve que c'est un rôle qui exige beaucoup d'efforts.
Oui, il y a du travail. Faire quelque chose qui ne bénéficie pas forcément à soi-même. Oui, il y a du boulot. Par contre, je trouve ça vraiment très enrichissant, très intéressant. Donc, j'espère trouver quelqu'un pour l'année prochaine qui puisse profiter des processus que je pourrais réussir à mettre en place et inventer d'autres choses pour que l'association se renouvelle.
Pas juste Toastmaster, mais quand on parle d'une association, une organisation, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différence être juste membre un peu consommateur qui vient, qui profite du système, des discours, c'est super, et d'être un membre du bureau, où on doit vraiment faire marcher le club, est-ce qu'il y a une grande différence pour toi?
Oui, peu importe l'association, ce n'est pas la première association dans laquelle je suis partie du bureau. Faire partie de l'équipe organisatrice dans une association, c'est vraiment différent que de faire partie des membres classiques, je dirais. Faire partie de l'organisation, c'est savoir que l'on va donc effectuer un travail bénévole qui va profiter aux membres, pas forcément leur faire plaisir, hein. Quand il faut racheter des maillots pour un club de basket, ça n'importe pas à grand monde, hein. Certains sont un peu déçus de ne pas avoir de nouveaux jeux, mais comme je dis, ça fait tourner la boutique. Sans bénévoles, les associations n'existent pas en France. Donc avoir des bénévoles dans des bureaux, comme avoir quelqu'un qui est VPF, qui aide du coup les membres qui s'entraînent par le système Toastmasters à tracer leur chemin, c'est important.
Ça crée quand même des liens plus forts avec les gens du club, avec d'autres membres du bureau. Oui. Ah,
moi, ça me permet de mémoriser plus facilement les gens.
Les prénoms.
Les prénoms et les visages, beaucoup plus. De savoir aussi quelles sont leurs réticences. Pourquoi est-ce que certains patientent autant de temps? J'ai dû discuter avec certains membres qui finalement m'ont révélé leurs exercices préférés. Alors je ne vais pas forcément les pousser à faire les exercices qu'ils n'aiment pas. L'intérêt aussi chez Toastmaster, c'est de pouvoir progresser à son rythme.
Justement, en parlant des exercices, donc chez Toastmaster, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, nous avons des discours. Pour moi, c'est un des rôles les plus importants. Mais il y a aussi les improvisations, les évaluations, et j'ai oublié aussi l'animation. De ton côté, quel est ton exercice, ton rôle préféré?
J'aime beaucoup tous les rôles d'évaluation. Dans les rôles d'évaluation, tu effectues une partie, on va dire, improvisation. Un rôle d'évaluation, que ce soit évaluer un discours ou une partie technique, je suis d'accord qu'on prépare son rôle, qu'on utilise une grille, des méthodes, parce que tout le monde veut progresser avec un outil qui est donc les rôles de Toastmasters, qui sont donc les rôles de Toastmasters, le système Passways. Donc même si c'est cadré, la partie, on va dire, improvisation de l'évaluation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
C'est très difficile aussi, non? C'est en même temps improviser, ça doit être structuré, un temps très court.
Oui.
C'est difficile.
C'est pour ça que c'est mon préféré.
Ah, tu n'aimes pas les chemins faciles.
C'est aussi celui qui me profite le plus ensuite au travail quand je dois gérer une équipe. Donc j'ai parlé de toutes les fois où j'ai dû faire des discours en formation ou en partage de connaissances. Mais au final, ce que j'utilise le plus souvent, ce sont, on va dire, les retours d'expérience. Dire à quelqu'un qu'il a très bien fait son travail, demander à quelqu'un Pourquoi est-ce qu'il l'a fait comme ça? Pour en savoir plus et pour pouvoir modifier une méthode. Au final, c'est de l'évaluation, c'est appliquer un certain schéma et savoir le critiquer en bien ou en mal.
Quel est ton style d'évaluation préféré? Parce qu'il y a beaucoup de théories, alors sandwich, donc on fait beaucoup de compliments, après un peu de critiques, après encore beaucoup de compliments, ou qu'est-ce que tu utilises d'habitude?
Je crois que j'utilise les différents sens. Il y a une partie de la méthode qui est le fond, la forme, et ensuite évaluer le vocabulaire, le verbal, différents aspects du discours. Et dans ce que je vais trouver dans cette grille, je vais essayer de démarrer avec un compliment général, comme tu as dit, sandwich. Ensuite, je vais tout analyser, donc je n'ai plus la méthode sandwich, et je pense que ça se voit des fois, que je peux faire des réflexions pas très agréables pendant longtemps. Et je termine sur les conseils et les encouragements. C'est beaucoup plus difficile pour moi, parce que je suis difficile avec moi, de trouver des encouragements. Et donc Toastmasters, ça m'a obligée à chercher une façon de le dire. Je note beaucoup de détails sur ma page, et la première chose que je fais, c'est trouver un encouragement. Et ensuite, je verrai comment je déroule le reste.
Ah, très bonne méthode. D'accord, je trouve ça très intéressant parce que pour moi c'est le contraire. Je trouve que des compliments, et après pour critiquer quelque chose, je trouve ça difficile. Alors pour toi c'est le contraire, c'est ça?
Oui.
Et les discours, quels sont tes sujets préférés pour les discours? Ah. Comment choisir un bon sujet?
Ta question elle est en lien avec le prochain discours que je vais faire. C'est un discours qui va clôturer mon premier parcours, et je vais essayer de revenir sur tout ce que j'ai fait. Et je me suis aperçue que mes sujets étaient souvent sur la vie quotidienne ou mes loisirs. J'ai parlé de mes bibliothèques, j'ai parlé du ménage, j'ai parlé de la reconstitution. Très peu sur le développement personnel par rapport à d'autres, ou très peu sur mon milieu professionnel au final. Parce que Toastmasters, c'est un loisir. J'apprends avec, mais je m'amuse avec.
Ça veut dire que tu as fait maintenant combien de discours à peu près?
Si j'ai un deuxième parcours en même temps, donc je pense que dans le premier, j'ai déjà dû en faire 12 ou 13, probablement...
Une vingtaine.
Ouais, probablement, ouais, un peu moins, 18.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner une allusion à l'idée de ton discours?
Un avant-goût? Oh, je dirais juste amusez-vous.
D'accord, donc ça sera quelque chose de ludique.
Ce sera une façon de présenter Toastmasters en s'amusant. Comme je l'ai dit, je choisis des sujets qui ne sont pas professionnels. Ça permet de se faciliter l'exercice et de grandir au fur et à mesure. Donc peut-être que plus tard, je vais prendre des sujets plus sérieux. Je sais pas si les gens vont s'amuser avec cybersécurité industrielle.
Bon, ça peut être fascinant. Et donc si j'ai bien compris, quand on commence, c'est peut-être une tendance naturelle de parler de soi-même. Parce que c'est plus facile, peut-être. Dans les improvisations, pareil. Mais après, peut-être, quand on progresse, on se tourne plus vers le public ou des sujets plus sérieux, peut-être ça aussi.
Je dirais qu'il y a deux volets. Le premier exercice des parcours nous demande d'utiliser notre propre vie. Icebreaker, parler d'où, parler de pourquoi est-ce que vous faites Toastmasters, pourquoi est-ce que vous continuez Toastmasters. Et ensuite... Oui, c'est vrai que chez nous, dans les improvisations, souvent les gens partent d'une expérience personnelle. Je pense qu'on peut aussi partir en inventant des histoires, puisque ça permet tout aussi bien de faire passer des émotions et, on va dire, d'accaparer un peu le cerveau du public. Ça peut être une autre méthode pour animer, en fait, ce que l'on dit.
Oui, il faut faire un podcast entier sur les improvisations. C'est un exercice incroyable. Et maintenant, des conseils pratiques. Maintenant que tu as fait tellement de discours, d'évaluations, d'autres expériences. Imagine que tu es mentor d'un nouveau membre. Parce que nous avons aussi ce concept de mentorat, mentoring. Oui. Quels trois conseils tu donnerais à la personne qui va intervenir pour la première fois?
Alors, le premier, je pense que les gens l'ont senti, et je l'ai dit à certains au téléphone, trouver un sujet plaisant. Quitte à parler de la dernière tartatin ratée, si c'est organisé, si c'est monté comme une aventure, alors ça fera plaisir au public, et les exercices de type gestuel ou changement de voix participeront du coup à l'animation du discours avec un sujet aussi basique que rater sa tatata.
Donc choisissez un sujet qui vous intéresse.
Voilà, plaisant.
Plaisant, oui. Pas la cybersécurité.
Pour moi, c'est plaisant.
Mais si ça nous passionne, ça va forcément passionner les autres, oui.
Si ça nous passionne, on peut être emmené par ce que l'on dit. Et en étant emmené, on peut oublier le public. Ça peut être un défaut. Je peux parler très longtemps de cybersécurité et perdre tout mon amphithéâtre. Un sujet plaisant, c'est un sujet pour lequel on a de l'énergie. Et ça vient ensuite avec mon deuxième conseil qui est trouver un angle passionnant pour le public. On ne connaît pas forcément son audience, je suis d'accord, ça peut être difficile. Il faut donc imaginer plusieurs façons d'aborder le sujet qui nous plaît. Et puisque c'est un sujet qui nous plaît, il est possible que l'on trouve plus facilement les façons de l'aborder pour que ça s'adapte au public.
Par exemple, si on parle de la cybersécurité, on pourrait faire un discours sur les mots de passe et à quel point les gens sont parfois naïfs et citer par exemple les 10 premiers mots de passe les plus piratés. Ça peut être une idée ou...
Ça peut être une idée. Je pense que si je devais faire un discours cybersécurité Toastmasters, je prendrais plutôt ce qu'on appelle l'ingénierie sociale.
Qu'est-ce que c'est ?
Je présente bien, je fais pas partie des minorités, les gens sont gentils avec moi. J'aurais pu rentrer 4 fois à la Société Générale avec un badge qui ne m'appartient pas.
Je vois. Sur comment on peut influencer les gens pour pirater un système, c'est
ça ? Oui, pour rentrer quelque part, pirater un système. Il suffit parfois de... En étant deux, par exemple, on peut très bien récupérer tous les codes de carte bancaire de quelqu'un.
On amène un enfant ou un petit chien, et voilà.
Voilà, on aide quelqu'un.
On est une blonde.
Et en fait, au lieu de l'aider, on le guide vers un mauvais numéro de téléphone avec un complice qui peut récupérer tous les codes.
J'ai trop envie d'entendre un podcast, un discours sur les façons de se protéger, des choses à savoir. Et troisième conseil.
Préparer des mots-clés pour aider sa mémoire. Parfois, les discours vont être coupés, avoir une pause, parce que on va être pris dans son propos et ne plus savoir ce qui est le point d'entrée. Donc, essayer de mémoriser une liste de mots-clés peut permettre de continuer. On sait qu'on va devoir parler de quelque chose, de second point, je sais pas, arbitrage. Mmh. Et voilà, on parle de foot et de comment se passe l'arbitrage. Et rien que de prononcer le mot-clé peut aider du coup à démarrer un paragraphe, un propos suivant. Moi, mon dernier conseil, c'est apprenez les mots-clés en priorité et votre discours va couler tout seul.
Et on peut les noter ou il vaut mieux trouver une façon de les vraiment les mémoriser ?
Moi, je préférerais les mémoriser parce que j'ai besoin de mes mains. C'est plus fluide avec les mains qui bougent. Si c'est sur une petite fiche de notes, je pense que ça peut être aussi une sorte de doudou pour les gens. Les mots sont sur la fiche de notes. Même si on ne la lit pas, on sait que s'il y a un souci, les mots sont là.
Nous sommes dans un monde maintenant où il y a beaucoup de prises de parole sur Zoom, sur l'écran. Est-ce que ces conseils et les connaissances, le savoir-faire de prise de parole restent quand même d'actualité dans ce format ?
D'après moi, oui. Et c'est là où je vais amener mon prochain projet hors Toastmasters, où tout ce que l'on apprend, toutes les qualités que l'on apprend chez Toastmasters vont m'aider. Je vais lire en ligne un livre dont vous êtes le héros, avec un groupe d'amis. Il va donc falloir que je mette le ton, que je fasse des pauses, que je rajoute l'ambiance, pour que le livre soit suffisamment effrayant, en l'occurrence, c'est le château de Dracula.
Waouh.
Et que les gens puissent être dans l'ambiance.
Tu as eu beaucoup d'expérience de prise de parole sur Zoom, parce qu'on a passé une année chez Toastmasters en ligne. À ton avis, c'était utile ?
Prendre la parole assis, pour moi, ça change beaucoup de prendre la parole debout. Pour moi, ça me change les mouvements.
Ah oui ?
Même si chez FRDS, je peux rester dans un tout petit mètre carré à bouger, c'est pas forcément le cas quand je suis en réunion, parce que j'ai des diapositives, je vais vouloir les pointer. J'ai un tableau et sur Zoom, ça a été difficile de capter l'attention des gens sans avoir de mouvement. Puisqu'au final, on accroche les mouvements de la personne qui fait le discours. Au début de l'année, comme tout le monde, hein, j'étais fixe en caméra, je passais au cas où des documents. Et vers la fin de l'année, j'avais utilisé ma tablette pour faire des dessins en direct.
Mm-hmm. Très bien, merci beaucoup Anne pour ces conseils précieux.
Merci.
Et à bientôt dans le club.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté notre conversation. Pour rencontrer Anne et les autres membres de notre club, contactez-nous sur forumrds.org. forumrds.org. À bientôt.